OK, on va continuer notre étude sur Ésaïe. Comme d'habitude, on a toujours deux leçons à peu près par livre, normalement. On est dans la deuxième partie d'Ésaïe. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va regarder avec un peu plus de détails le contenu du livre d'Ésaïe et quelques-unes de ses leçons morales. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'aime beaucoup le livre d'Ésaïe. Quand j'arrive sur Ésaïe, il y a certains livres qu'on arrive dessus, on dirait que... Je ne sais pas, tu arrives dans un chronique, tu n'es pas nécessairement content. C'est une erreur qu'on ne soit pas content, parce qu'on devrait, il y a plein de leçons pareilles. Mais moi, quand j'arrive dans Ésaïe, je ne me sens pas comme, c'est intéressant de lire Ésaïe, il y a tellement de choses qui parlent de Christ. C'est intéressant, c'est un livre intéressant. Alors, le contenu. Pour comprendre le livre d'Ésaïe, il faut garder à l'esprit la situation politique complexe à laquelle Ésaïe fait face. C'est une époque critique de l'histoire du peuple de Dieu. L'empire assyrien menace les frontières du nord-est. Les autorités du royaume de Juda envisagent deux solutions. Certains sont partisans d'une alliance avec l'Égypte, d'autres favorisent un rapprochement avec l'Assyrie. Ésaïe privilégie une autre solution et appelle les rois successifs et le peuple à se confier entièrement et exclusivement dans le Dieu vivant. Alors, quand on regarde, il y a des divisions dans le livre. Une des divisions, c'est que Ésaïe fait des prophéties contre Juda et il fait aussi des prophéties contre les nations. Alors, les jugements contre Juda à l'époque de d'Ozias et de Jotham, qui va du chapitre 1 jusqu'au verset 13 du chapitre 6. Ozias, qui s'appelle aussi Azaria, accède au trône de Juda à l'âge de 16 ans. Il l'occupera pendant 52 ans. Même s'il ne porte plus que le titre royal de ses 10 dernières années de règne. Son fils Jotham exerce réellement le pouvoir pendant cette période. Durant le règne d'Ozias, Juda connaît une ère de prospérité. Le roi secoue le joug qu'Israël faisait peser sur Juda. Il triomphe des Philistins à l'ouest et des Ammonites à l'est. Il renforce considérablement son armée et procède à de gros travaux de fortification de la ville de Jérusalem. Dans son ensemble, le peuple vit dans l'insouciance et l'impiété. Le paganisme et la mondanité submergent le pays. Jéroboam II règne sur le royaume du Nord. Ses succès militaires sont plus impressionnants que ceux du roi Ozias. Il étend les limites d'Israël et triomphe de la Syrie au point même de s'emparer de Damas, sa capitale. Ce n'est toutefois pas une stratégie bien pensée, car l'affaiblissement du royaume syrien expose Israël aux attaques d'un autre ennemi, la Syrie. À la mort d'Ozias, Jotham, son fils, continue de régner sur Juda et Ésaïe est appelé à l'office prophétique. Jotham règne seul pendant 5 ans environ, après quoi il associe son fils Achaz à la direction des affaires. La co-régence dure jusqu'à la mort de Jotham. Jotham est un bon roi, un homme qui craint Dieu, car il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. C'est un homme de prière, car Jotham devint puissant parce qu'il affermit ses voies devant l'Éternel son Dieu. Il n'est cependant pas en mesure d'influencer la nation dans les domaines spirituels et moraux. Le peuple se corrompait encore. Les prophètes Ésaïe et Michée dénonce tout particulièrement les péchés du peuple. Jotham apporte une part de responsabilité, porte une part de responsabilité dans le péché du peuple, car tout en procédant à des travaux d'agrandissement du temple, il ne fait pas disparaître les nombreux temples païens disséminés dans le pays de Juda. Effectivement, le peuple offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. C'est pourquoi l'Éternel commença à envoyer contre Juda Retsin, roi de Syrie, et Pekach, fils de Remalia. La Syrie et Israël s'attaquent à Juda parce que le roi et les habitants de son royaume ne sont pas entièrement fidèles au Dieu vivant. À partir du chapitre 7, verset 1, jusqu'au chapitre 12, verset 6, on a vraiment les prophéties concernant Juda à l'époque d'Akaz. À l'époque du règne conjoint de Jotham et d'Akaz, l'empire assyrien, sous la férule de Pilnézer II, qui a vécu de 745 à 727 avant Jésus-Christ, monte en puissance. La Syrie et Israël s'inquiètent de la menace que les Assyriens font peser sur leurs frontières du nord-est. Retsin, le roi païen, et Pekach, le roi d'Israël, tentent de convaincre le roi Akaz de se joindre à eux contre la Syrie. Ésaïe met en garde Akaz contre toute participation à une coalition montée contre la Syrie. Devant le refus d'Akaz de se joindre à eux, les Syriens et les Israélites attaquent le royaume de Juda. Leur intention n'est pas seulement de vaincre Juda, mais aussi de chasser les descendants de David du trône à Jérusalem. L'Éternel charge Ésaïe d'un message pour Akaz. Celui-ci ne doit pas craindre l'attaque conjointe de la Syrie et d'Israël, mais il doit se confier en l'Éternel qui les protégera, lui et la nation. Le prophète encourage même le roi à demander un signe de la part du Seigneur pour être tout à fait sûr de sa protection. Malgré la proposition d'Ésaïe, le prophète de Dieu, Akaz, refuse de demander un signe sous prétexte qu'il ne veut pas mettre le Seigneur à l'épreuve de cette manière. En dépit de son refus, il obtient tout de même le signe. Celui-ci constitue l'une des prophéties les plus étonnantes concernant le Messie, dans le verset 14 du chapitre 7. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous enverra un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, le nom qui signifie Dieu avec nous. Le roi Akaz refuse de s'appuyer sur l'Éternel, préférant l'aide des Assyriens. Mais le roi assyrien interprète l'appel au secours comme un aveu de faiblesse et en profite pour exercer un pouvoir plus grand sur Juda. Le deuxième livre des Chroniques explique pourquoi Juda finit par tomber aussi bas sous la pression des Syriens, des Israélites, des Édomites, des Philistins et des Assyriens. Comme c'est toujours le cas dans les péripéties de l'ancien peuple de Dieu, la raison profonde n'est pas militaire, mais morale. Pas une question de stratégie, mais de spiritualité. Ça nous dit « car l'Éternel humilia Juda à cause d'Akaz, roi d'Israël, qui avait jeté le désordre dans Juda et commis des péchés contre l'Éternel. Tilgath-Pilnézer, roi d'Assyrie, vint contre lui, le traita en ennemi et ne le soutint pas, car Akaz dépouilla la maison de l'Éternel, la maison du roi et celle des chefs pour faire des présents au roi d'Assyrie, ce qui ne lui fut d'aucun secours. Pendant qu'il était dans la détresse, il continuait à pécher contre l'Éternel, lui, le roi Achaz. Il sacrifia au dieu de Damas, qui l'avait frappé, et il dit, « Puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je leur sacrifierai pour qu'ils me secourent. » Mais ils furent l'occasion de sa chute et de celle de tout Israël. Après la mort de Tilgath-Pilnéser III, le roi assyrien, ses successeurs, Salmanasar V et Sargon, s'avancent contre le royaume du Nord qui est Israël. En 622, avant notre ère, ils détruisent la capitale Samarie, déportent les Israélites et les remplacent par des immigrants de Babylone, de Cutha, d'Ava et de Hamath et de Sépharvaïm pour repeupler le pays. Ces gens sont les ancêtres des Samaritains de l'époque néo-testamentaire. Alors, on a une autre série de prophéties qui commence au verset 1 du chapitre 13 jusqu'au chapitre 23, verset 18. Alors là, à ce moment-là, c'est des prophéties contre les autres nations. Après avoir annoncé le jugement de Dieu sur le royaume infidèle de Juda et sur celui impie d'Israël, Ésaïe prophétise sur les nations environnantes. Il proclame la chute et la destruction totale de Babylone sous les assauts des Mèdes. Un jugement terrible frappe l'Empire. Ésaïe prophétise contre l'Assyrie, la Philistie, Moab, la Syrie et Israël, l'Éthiopie, l'Égypte, Babylone, Édom, l'Arabie et contre Tyr aussi. Au milieu de ces prophéties terribles contre les nations païennes, se trouve une prophétie contre Jérusalem et ses chefs infidèles. Toute une autre série de prophéties qui commence à partir du chapitre 24 jusqu'au chapitre 27, les prophéties concernant le jour de l'Éternel. Le prophète annonce une grande détresse. Voici, l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Voici les raisons de cette dévastation. Car il transgressait les lois, violait les ordonnances, il rompait l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leurs crimes. Des promesses de salut, un chant de confiance en Dieu et le rappel de ses soins pour son peuple qu'il appelle sa vigne, se mêle aux prophéties de jugement universel et à la description des péchés et de la misère du peuple. À partir du chapitre 36, aller jusqu'au chapitre 39, verset 8, on a ce qu'on appelle un intermède historique. Ézéchias, le fils d'Achaz, est devenu roi entre-temps et règne 29 ans sur Juda. On le considère généralement comme le plus sage et le meilleur des rois de Juda. Il a aussi été qualifié de roi vertueux. Le récit d'un grand nombre de ses actions prouve sa crainte de Dieu et son souci de l'honorer. Comme ça dit, il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Dès le début de son règne, il inverse complètement la politique qu'avait suivie son père Achaz. Il détruit avec zèle les idoles et les autels païens qui avaient été dressés dans le pays, rétablit et purifie le culte du vrai Dieu, appelant le peuple à célébrer une grande Pâque. Son règne ne se caractérise pas seulement par cette réforme religieuse, mais également par de nombreuses améliorations dans le domaine public. Ézéchias règne depuis une quinzaine d'années quand Sargon, le roi des Assyriens, meurt en 605 avant Jésus-Christ. Sanchérib, son successeur, doit faire face à la rébellion de plusieurs régions. L'agitation gagne la Syrie et au sud-est, Babylone commence à faire valoir sa force. En 601 avant Jésus-Christ, Sanchérib porte son attention et ses efforts sur Juda et sa capitale, Jérusalem. Lorsque Sanchérib et les armées assyriennes assiègent Jérusalem, Ézéchias place toute sa confiance en l'Éternel. Il déchire ses vêtements, se couvre d'un sac et se rend à la maison de l'Éternel. Après avoir reçu une nouvelle menace de Sanchérib, le roi de Juda adresse la prière suivante à Dieu. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est à toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sanchérib a envoyées pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leur propre pays, et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. L'avenir de Jérusalem paraît bien sombre et sans issue. Dieu envoie Ésaïe pour dire à Ézéchias qu'il a entendu ses prières et qu'il récompensera sa confiance. Et la délivrance miraculeuse se produisit. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Peu après cet événement, Ézéchias tombe gravement malade. Ésaïe lui rend visite et lui annonce « Donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » La réaction du roi témoigne une fois de plus de sa piété. Il prie et pleure devant l'Éternel. Dieu confie alors un message à Ésaïe. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. La maladie et la guérison incitent Ézéchias à composer un magnifique psaume. Quand le roi de Babylone, Mérodac Baladan, envoie des messagers auprès d'Ézéchias pour l'inciter à se joindre aux Babyloniens dans leur révolte contre Sanchérib, roi d'Assyrie, le roi de Juda fait preuve d'une grande naïveté en montrant tous ses trésors. Apprenant ce qui vient de se passer, Ésaïe l'informe qu'un jour, toute la richesse de la maison royale sera déportée à Babylone. Cette annonce prophétique forme une transition entre les deux parties du livre. La première partie, qui va du chapitre 1 au chapitre 39, s'intéresse beaucoup à la crise assyrienne, alors que la seconde, à partir du chapitre 40 aller jusqu'à 66, porte davantage son attention sur les futurs exilés juifs à Babylone. Grâce à l'Esprit de l'Éternel, Ésaïe peut voir des choses qui appartiennent au futur. Certains détails de la deuxième partie du livre concernent des événements touchant à la déportation à Babylone au retour à Jérusalem, mais d'autres projettent leurs perspectives beaucoup plus loin dans le temps. Peut-être s'applique-t-il à trois périodes et trouvent-ils leur accomplissement lors du retour des Juifs exilés, lors de la vie terrestre du Messie, ou à la fin des temps, lors de la nouvelle création. Cet enchevêtrement des fils de la prophétie ne facilite pas l'interprétation ni l'application. Et après ça, on a les prophéties concernant, à partir du chapitre 40, verset 1, aller jusqu'au chapitre 66, verset 24, les prophéties concernant la nature et l'avenir de l'Église de Dieu. Les prophéties contenues dans les 27 derniers chapitres forment un tout disparate. Probablement écrites vers la fin du ministère d'Ésaïe, elles concernent pas seulement les contemporains du prophète, mais également la future Église de Dieu. Les prophéties vétérotestamentaires ont souvent plus d'une application et plus d'un accomplissement. Il semble que les prophéties d'Ésaïe concernent quatre périodes distinctes. L'époque du prophète, premièrement. Deuxièmement, l'époque de la captivité babylonienne et du retour. Troisièmement, l'époque du Messie sur la terre. Et quatrièmement, l'époque de la nouvelle création, lorsque le Seigneur créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On arrive au moment où on va regarder quelques leçons morales du livre d'Ésaïe. Premièrement, je pense qu'il y a sûrement une leçon morale concernant un avertissement contre le formalisme. L'un des grands soucis d'Ésaïe, répété tout au long de son ministère, est l'attitude que Paul dénonce chez ceux qui ont l'apparence de la piété, mais qui en renie ce qui en fait la force. 2 Timothée chapitre 3, verset 5. La fausse religion méprise ostensiblement le vrai Dieu, mais ceux qui se contentent de ces manifestations extérieures, sans qu'elles remplissent leur cœur ou leur esprit, font preuve d'un irrespect encore plus insidieux. On lit par exemple dans le chapitre 66, versets 3 et 4. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait le sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait les idoles. Tous ceux-là se complaisent dans leur voix, et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Moi aussi je me complairai dans leur infortune, et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi. Parce que j'ai appelé, ils n'ont point répondu. Parce que j'ai parlé, ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, et ils ont choisi ce qui me déplaît. Et on en avait aussi dans le verset 15 du chapitre 1. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Le Seigneur Jésus dénonça aussi les formes religieuses extérieures creuses. Il appliqua le passage d'Ésaïe 29, verset 13, aux scribes et aux pharisiens de son temps. On lit dans Marc, chapitre 7, versets 6 et 7, Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. » Le vrai culte rendu à Dieu ne consiste pas seulement à adorer le Seigneur de tout son cœur et de toute sa pensée, et à pratiquer des exercices spirituels. Le culte doit aussi se traduire par des efforts pratiques de service et un certain style de vie. Comme les autres grands prophètes de Dieu, Ésaïe lie le vrai culte offert à Dieu à la pratique de la justice sociale, à l'honnêteté dans les affaires, aux soucis actifs des pauvres et des opprimés, à la défense de la vérité et de l'honnêteté dans la vie civile. Une juste relation avec Dieu exige toujours une juste relation avec les hommes. Deux commandements résument la loi de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, un des thèmes, c'est l'avertissement contre le formalisme religieux. L'autre, leçon morale du livre d'Ésaïe, les conseils du monde. Le peuple de Dieu est constamment exposé au danger de suivre les considérations mondaines ou les conseils impies, comme on le voit dans le chapitre 30, versets 1 et 2. « Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Parce qu'ils vivent de ce côté-ci de la croix et de la Pentecôte, les chrétiens ont le grand privilège de posséder l'entière révélation écrite de Dieu. Nous n'avons pas besoin ni de lire dans le marque de café, ni de nous fier aux horoscopes, pas besoin non plus de débats publics ou de centres d'information pour savoir comment vivre d'une façon qui plaise à Dieu. À la loi et au témoignage, et si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Chapitre 8, verset 20. Seul Dieu peut révéler sa volonté, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas vos voix, mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dans les Écritures, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Paul avertit qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Psaume 1, versets 1 et 2. Autre thème, le thème de l'affliction. Une nation qui se trouve sous le jugement de Dieu peut néanmoins compter des citoyens qui s'efforcent sincèrement de l'aimer et de le servir. Ils souffrent avec les méchants, ils sont tentés de dire avec Asaph, « C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. » Dans ce contexte, Ésaïe est un message d'encouragement et d'espérance. « Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. » Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. » Par obscurité, le prophète désigne l'ignorance ou la cécité de l'intelligence humaine, mais Dieu a promis de consoler ceux de ses enfants que les afflictions submergent parfois et plongent dans la détresse. Bien que le Seigneur ait toutes les raisons de châtier son peuple, deux considérations l'en empêchent. D'abord, s'il le traite aussi durement qu'il le mérite, ses vainqueurs païens pourraient conclure que Dieu a laissé son peuple dans le pétrin, si bien que l'honneur qui aurait dû lui revenir de plein droit pourrait être à tort attribué à d'autres dieux. Ensuite, même s'il est gravement offensé, Dieu n'oublie pas son alliance. Chapitre 54, versets 7 à 10. « Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Des applications. Première application, étudions attentivement la structure et le plan du livre d'Isaïe. Il nous aidera à mieux le comprendre, à mieux l'interpréter et à mieux appliquer les leçons qu'il contient. Deuxième application, rappelons-nous que certains livres des Saintes Écritures ne nous livreront pas leurs secrets et leurs richesses que si nous leur accordons un temps d'étude suffisant. Troisièmement, le livre d'Ésaïe est rempli de leçons morales pour les chrétiens d'aujourd'hui. Prions le Seigneur de nous les révéler et d'obéir à ses sages conseils. Implorons Dieu de nous montrer la grandeur et la majesté de ce livre par toutes les merveilles qui y sont révélées. Que l'Éternel soit béni pour nous avoir donné les livres prophétiques. Étudions-les par sa grâce et pour sa gloire. Amen.